Didier Laguerre, bonjour.
Bonjour.
Nous avons convenu avec la mairie de Fort-de-France que nous serions présents pour une fois par mois, pour vous donner la parole, pour vous écouter, pour vous entendre et parler des choses de la ville. Alors, merci de nous recevoir. Nous sommes à votre bureau actuellement, au troisième étage, et nous allons parler des choses qui vous semblent être importantes, même si nous allons essayer de consacrer un moment à la question du sport. Alors, première question, comment allez-vous et comment va la ville de Fort-de-France?
Ben, bonjour et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs, ça va? Ça va bien. Je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous. D'abord, que cette année nous permette à chacun de réaliser nos projets personnels, nous permettre de nous maintenir en santé, de nous occuper de nos foyers, de nos familles, de nos enfants, développer notre sphère personnelle, mais nous permettre aussi de développer nos projets professionnels, que les Martiniquaises et les Martiniquais puissent développer leurs projets professionnels, s'épanouir, et puis nous permettre aussi, je pense que c'est important, et on en a particulièrement besoin en cette période un peu troublée, un peu anxiogène, souhaiter que la Martinique puisse travailler collectivement, que les Martiniquais puissent se donner la main et travailler dans le sens de l'intérêt général. Et parce que nous avons un pays à développer, nous avons un peuple à accompagner, nous avons un peuple qui a besoin de vivre, qui a besoin de se projeter, qui a besoin de s'émanciper, qui a besoin de s'épanouir. Nous avons des jeunes qui ont besoin d'avoir des perspectives dans l'avenir. Et notre devoir et notre rôle, c'est de les accompagner, de leur offrir ces perspectives.
Très bien. Alors, monsieur le maire, comme merci pour ces bons voeux que nous retransmettrons à tous nos lecteurs et auditeurs. Je vous rappelle que sur notre réseau, nous avons plusieurs supports, à la fois des radios, des lecteurs, notre réseau sur la métropole, enfin sur la France, mais aussi dans le monde, puisque nous sommes implantés à différents endroits et aujourd'hui, ici, Martinique est disponible dans 153 pays dans le monde, alors où il y a des francophones. Alors, maintenant, la question c'est comment va la ville?
Ben, la ville se porte bien, la ville se bat. Vous savez, Fort-de-France, c'est une ville qui a toujours dû lutter contre l'adversité. On oublie qu'il y a 60 ans, Fort-de-France, c'était construit sous des marécages. Il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. La population était décimée par des épidémies qui depuis ont été éradiquées. Et donc Fort-de-France est toujours battu contre l'adversité. Fort-de-France continue à se battre contre l'adversité et à se développer, à travailler. C'est une ville magnifique qui se modernise progressivement, qui se rénove. Une ville où il fait bon vivre, avec des quartiers. Fort-de-France, c'est aussi une ville magique. Vous êtes dans l'urbain, vous êtes dans la ville. Vous faites 500 mètres à vol d'oiseau, vous êtes dans un quartier et vous vous retrouvez en pleine campagne. Et ça, c'est toute la magie de la ville de Fort-de-France. Et vous le trouvez dans des quartiers que vous n'imaginez pas, avec une authenticité et une richesse culturelle. Et une diversité des âmes de nos quartiers. Et donc Fort-de-France va bien. Fort-de-France, la collectivité Fouillalaise continue de se transformer, de se rénover. Nous avons mis en place une nouvelle organisation administrative. Nous travaillons à dégager des marges de manœuvre financières pour nous permettre de financer les projets de développement de la ville, de terminer un certain nombre de projets, qu'ils soient culturels, qu'ils soient socioculturels, qu'ils soient sportifs, en termes d'investissement. Et puis, Fort-de-France se porte bien aussi parce que un de mes leitmotiv, quasiment une obsession, c'est l'association des Fouillalaises et des Fouillalais, des gens qui vivent à la dynamique de développement de la ville à travers des conseils Fouillalais, nous mettre ensemble tout simplement et voir bon, comment nous faisons évoluer notre quartier, quel est le quartier, transmettre l'histoire du quartier aux nouvelles générations, aux enfants, y compris à ceux qui viennent habiter le quartier, qui ne connaissent pas la construction de ce quartier, l'âme de ce quartier, le mode de vie du quartier. Et donc, qui, ce faisant, ben, vont un peu dénaturer les choses et vont parfois créer des conflits de voisinage. Partager l'histoire, l'âme d'un quartier, et puis voir où on emmène ce quartier. Qu'est-ce qu'on fait? Quel projet on veut pour ce quartier? Et pas uniquement des projets d'infrastructure, il en faut, mais aussi des projets de vie. Comment on accompagne nos aînés dans nos quartiers, en ne considérant pas que le rôle de la puissance publique, c'est de se substituer et de régler tous les problèmes, quels qu'ils soient. Non, on doit aussi nous-mêmes, individuellement et collectivement, nous prendre en main. C'est le sens aussi de la responsabilité et de l'autonomie. Nous prenons en main. Donc, comment on fait ensemble là pour développer notre quartier, pour accompagner nos aînés, pour accompagner nos jeunes, quelles sont les principales problématiques de vie du quartier et comment on les traite ensemble, on définit ça ensemble et on le met en œuvre de façon à ce que justement ce qui a fait qui pour moi fait aussi la marque de fabrique de Fort-de-France, les habitants qui ont construit leur quartier, beaucoup de quartiers, de quartiers dits populaires, sont des quartiers d'autoconstruction. Ce sont les habitants qui ont choisi que la route passerait là ou là, qu'elle passerait comme ça, etc., qui ont construit le quartier et donc qui font l'âme de ce quartier et poursuivent dans cette dynamique-là. Donc Fort-de-France se porte bien avec les aléas des réformes et des coupes budgétaires et des pertes de recettes qui affectent l'ensemble des collectivités. À tel point que j'ai été élu en tant que maire de Fort-de-France avec l'association des maires de France au comité des finances locales qui réunit présidents de régions, de départements, de communautés d'agglomération, de villes moyennes, de villes d'outre-mer, parlementaires, représentants de gouvernement. C'est une structure tout à fait formalisé et officiel, et qui a pour mission de se pencher sur les problématiques de finances des collectivités locales et de rendre des avis sur les projets de décret du gouvernement, sur le projet de loi de finances. Le président de la Chambre de la Cour des comptes est venu nous présenter son rapport annuel. Le Premier ministre est venu présenter le projet de loi de finances au comité des finances locales. Et donc, dans le cadre de ce comité des finances locales, je participe à une réflexion pour une réforme fiscale, puisqu'il y a une annonce d'une exonération qui ira jusqu'à la suppression de la taxe d'habitation. Taxe d'habitation qui est un impôt, certes, mais qui est un impôt qui permet de financer des aménagements, qui permet de financer le fonctionnement du service public territorial au niveau des communes. Et lorsque vous supprimez cette taxe, vous donnez du pouvoir d'achat individuellement, mais ce faisant, vous enlevez des ressources à des collectivités. Donc la question qui se pose et que nous nous sommes posés, c'est comment remplacer cette ressource-là. Donc comment opérer une réforme fiscale qui permette à la fois d'avoir de la justice fiscale et en même temps de remplacer ces ressources dont les communes ont besoin et sans lesquelles les communes ne pourront pas délivrer des services aussi simples que l'état civil.
D'accord. Alors, monsieur le maire, vous avez dû remarquer que je vous ai écouté avec beaucoup d'attention.
Religieusement.
pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est bien d'avoir votre avis. Mais vous n'ignorez pas que le détail se trouve dans le diable. Le diable se trouve dans le détail. Et parfois, il arrive qu'on ait un petit peu l'impression que, surtout dans cette période de carnaval à la Martinique, que nous nie des djabsouds, quoi. Bon. Ah, donc, oui. Sur ces points, on va commencer par le début. On parle beaucoup en ce moment de réduction des dotations de l'État. Comment cela affecte-t-il véritablement aujourd'hui Fort-de-France? Et est-ce que vous perdez au change environ... Quelle valeur, quel pourcentage, ou si vous avez le montant exact, qu'est-ce que vous perdez en ce moment par rapport aux dotations habituelles que vous aviez de l'État pour 2018?
Pour 2018, on a une baisse de dotation qui sera, de la DGF à elle seule, qui sera autour de 300 000 euros. On n'a pas encore les autres notifications de dotation, puisque le gouvernement a annoncé qu'il ficherait la baisse des dotations. Mais sur la période, la dernière période qui s'est écoulée de 2014 à 2018, on a perdu plus de 10 millions d'euros de recettes. en matière de dotations diverses, avec, je suis aussi têtu, avec une inégalité contre laquelle je me bats et une injustice contre laquelle je me bats. Et je continuerai à me battre jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Les villes comme Fort-de-France qui sont politiques de la ville. Être en politique de la ville, c'est vous êtes en politique de la ville parce que vous avez des difficultés. Vous avez un territoire, une ville qui rencontre des difficultés. Vous avez plus de 22 000 foyers à Fort-de-France, personnes à Fort-de-France qui vivent sous en dessous d'un seuil qui a été déterminé dans le cadre de cette loi, qui est fixé en Martinique à 630 euros et qui est fixé dans toutes les régions de France à 830 euros.
Alors 22 000.
Alors qu'on sait que la vie est plus chère ici. Donc 22 000 personnes concernées. Donc on est une ville...
Pardon, 22 000 foyers.
Personnes. La population concernée, c'est 22 000 personnes.
22 000 personnes, ok. Très bien.
Donc c'est quand même important. Oui. Fort-de-France est la 8e ville la plus pauvre de France, en termes de population. Pas en termes de budget de la collectivité, mais en termes de population. Donc on est en politique de la ville. Et à ce titre-là, le gouvernement a pris un texte disant que les villes qui sont en politique de la ville ont une dotation de solidarité urbaine. Donc c'est le cas de Fort-de-France, du Lamantin, du Robert et de Sainte-Marie, et que ces villes qui sont donc déjà en difficulté, on ne va pas en plus leur appliquer une baisse de dotation. Donc, leur dotation de solidarité urbaine va être augmentée du montant des baisses de dotation de façon à compenser cette perte. Ça se passe dans toutes les villes de France.
Mais pas ici.
Mais pas dans les villes d'outre-mer.
Ah bon, alors...
Donc on a déjà mené un certain nombre d'actions.
C'est quoi l'argument qui est pris?
Mais l'argument qui est pris,
pour justifier.
L'argument qui est pris, c'est que la méthode de calcul n'est pas la même. Il y a une péréquation différente qui est mise en place. En clair, on fait une péréquation entre la France et nous, et ensuite on fait une péréquation entre nous pour répartir la dotation. Le résultat, c'est que vous avez un écart. La compensation pour nous n'est qu'aujourd'hui de 30% lorsqu'elle est de 100% pour les villes de France. Il y a déjà eu des débats parlementaires dessus au Sénat. Il y a un rapport qui a été fait par un sénateur Georges Patient. Il y a un travail qui a été fait par les maires de Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Cayenne. Il y a un débat. Le président de la République, François Hollande, à l'époque, avait reconnu au dernier congrès des maires que oui, il y avait un problème, et donc il a dit qu'il procéderait à un rééquilibrage. Il y a effectivement eu un rééquilibrage de 3 millions d'euros. Pour la ville de Fort-de-France, l'enjeu, par exemple, pour nous, pour la ville de Fort-de-France, quand on prend cette dotation de solidarité avec un autre écart qui est assez particulier, notre dotation, nous, est de l'ordre de 37 euros par habitant. Pour déterminer la DSU, dotation de solidarité urbaine, pour déterminer celle de certaines collectivités de la région parisienne, leur dotation, elle, peut monter jusqu'à 400 euros par habitant. D'accord. La moyenne française est à 70 euros par habitant. Donc vous voyez qu'il y a un gap qui est sensible. Et donc, voilà. Pour nous, ça représente, par exemple, un écart de financement de 32 millions d'euros.
Sur un budget total de ?
Sur un budget total de 150 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est des enjeux importants sur lesquels
ça fait presque 20%.
Oui. Ça ne fait pas presque, hein. 150, ça fait 20% du budget. C'est colossal. Moi je me bats sur ça, on continue de se battre sur ça. Les baisses de dotation sont réelles. Pour nous,
c'est une perte cash.
Oui, c'est une perte sèche. Enfin, pour qu'on comprenne bien, c'est comme si votre rémunération, vous travaillez et votre employeur vous dit, même si ce ne sont pas nos employeurs, mais vous travaillez, vous avez une rémunération et votre employeur vous dit, à partir de l'année prochaine, eh bien, votre rémunération, elle va diminuer de 150 euros.
D'accord.
Et puis je vais la diminuer de 150 euros comme ça tous les ans. Voilà, vous avez 150 euros de moins et puis vous avez toujours loyer, etc. En ce qui concerne une collectivité, vous avez toujours du personnel, vous avez toujours des services à la population, école, crèche, cantine scolaire, état civil, protection civile, aménagement, entretien, éclairage public, voirie, équipement, tout ça, ce sont c'est des coûts. C'est une réalité. Vous avez des équipements sportifs, culturels, socio-économiques, vous avez une dynamique économique à porter, etc. Bref, vous avez un territoire à faire vivre. Et donc, il faut faire face à ces diminutions de recettes. Donc, on s'est organisé, on a...
Et vous êtes arrivé à tirer 20% d'économie ?
Non, les 32 millions, c'est l'écart, c'est le manque à gagner. Là, on a eu donc un peu moins de 10% de baisse
D'accord.
de nos recettes.
Et vous êtes
Et
arrivé à faire
oui,
une
on s'est arrivé,
économie.
oui, on est arrivé à, quand je suis arrivé, on avait des frais généraux qui étaient autour de, donc les frais pour faire fonctionner la collectivité, qui étaient autour de 18 millions d'euros, avec déjà des économies qui avaient déjà été réalisées. Aujourd'hui, on est à 13 millions d'euros.
D'accord. Et vous pensez que c'est encore
Et on
possible
continue.
de...
Oui, alors oui, je pense que c'est encore possible. Je vous donne un autre
Vous, de,
exemple.
vous demandez combien à vos services, à peu près 1 million par an?
Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous construisons, nous bâtissons, nous sommes en train de le faire là, nous bâtissons le budget ensemble, collectivement. Je donne des orientations et les services font oui, les services font des propositions d'opérations, d'actions, d'équilibre budgétaire de chaque DGA, de chaque service. Et en fonction des équilibres globaux, moi, je demande de faire je fais des arbitrages sur les diminutions qui vont être opérées ici ou là, et les efforts d'optimisation qui vont être faits, parce que je ne suis pas dans une logique de réduction de la qualité du service public, je suis dans une logique d'amélioration des modalités de production de ce service public. Et donc de faire en sorte que nous puissions fournir le même niveau de service public, mais que ça nous coûte moins cher à produire.
D'accord. Alors, avec une particularité, monsieur le maire, c'est qu'on sait aussi que la ville de Fort-de-France avait une très grosse régie, beaucoup de services en régie, que ce soit pour les quartiers, pour tous ces éléments, ce que certains ont considéré comme une machine électorale aussi, hein, il faut le dire. Est-ce que vous êtes dans cette dynamique de non pas de réduction des moyens, comme vous dites, mais est-ce que, par exemple, les solutions des appels d'offres, de délocaliser ces régies à travers les entreprises, d'activer le réseau économique, est-ce que vous êtes dans cette approche pour, disons, alléger la mule, quoi?
Ben, oui et non. Oui et non, parce que vous allégez la mule, mais vous dépensez, vous avez le besoin. Vous avez le besoin de services, et puis ça dépend. Je vous donne un exemple, moi, dont nous débattons régulièrement ici. J'ai un bureau à transformer, une cloison à modifier, à déplacer. Donc, il faudra reprendre le sol, déplacer deux climatisations, refaire trois réseaux courant faible pour ceux qui connaissent, hein, téléphone, réseau informatique. Bon, voilà, c'est pas le bout du monde. Bon,
Est-ce que vous allez
je
appeler
fais,
une
je fais,
entreprise pour
je,
ça?
ben, quand j'appelle une entreprise, elle me demande 16 000 euros. Dire j'allège la régie parce que j'allège la mule, mais les 16 000 euros, c'est parce que ça me coûte en le faisant en régie, hein. C'est parce que ça va me coûter en le faisant avec des ouvriers qui sont qualifiés. Donc ça et en même temps, quand vous avez une régie importante, vous avez une ressource humaine importante, donc une masse salariale importante, vous avez des infrastructures, vous avez des équipements, etc. Et donc ça a un coût aussi. Donc il faut pouvoir trouver le juste milieu. La vérité.
Sans compter pour vous taquiner, monsieur le maire, c'est que ça constitue aussi le socle électoral, puisque bon, j'insiste dessus,
Oh,
puisque
oui,
vous savez.
on
Non,
insiste, on insiste
j'insiste
beaucoup dessus, mais vous savez, je vais revenir sur le socle électoral, mais je finis sur la question de la régie. Pour moi, la vérité, les choses ne sont pas ni toutes blanches, ni toutes noires. C'est un juste milieu, c'est un nuancier de gris. Il faut de la régie, il faut pouvoir intervenir. Je vous donne un exemple. L'année dernière, nous sommes en période de contraintes budgétaires très fortes. L'année dernière, pour intervenir dans les écoles, nous avons mobilisé l'ensemble des services opérationnels de la ville, qu'ils soient de la régie ou pas, pour venir intervenir dans les écoles et pour apporter et pour faire permettre de faire réaliser des travaux, parce qu'on n'était pas en capacité de commander 2 millions d'euros de travaux à l'entreprise. Mais on a réparé nos écoles et on a fait ce qu'il y avait à faire.
D'accord.
Donc,
Vous
il
aviez
y
une
a.
facture de 2 millions et vous
Non,
avez au départ.
On investit au minimum 2 millions à l'entreprise dans les écoles chaque année pour assurer la maintenance des écoles.
2 millions.
Il aurait fallu investir entre 5 et 6 millions par an pour n'avoir aucun problème. Et on l'a fait pendant, c'est parce qu'on l'a fait pendant une dizaine d'années, depuis 2002, que nous sommes aujourd'hui en capacité, mais de lever un peu le pied pour mettre ces fonds ailleurs. Parce que quand vous investissez, Fort-de-France, c'est 52 écoles. On a compté jusqu'à 74 écoles. On ne s'en rend pas bien compte. Mais pour que vous puissiez avoir l'école pas très loin de chez vous, eh bien, il faut des bâtiments, il faut les entretenir. Eau, électricité, peinture, toiture, salle de classe, mobilier, personnel municipal, etc. C'est 30 millions d'euros qui sont dépensés dans le budget de la ville de Fort-de-France sur les politiques éducatives. Avec quand même des difficultés d'approvisionnement, on va dire sur le petit matériel d'encre, photocopieur, etc. Ce qui est très paradoxal. Et on a travaillé là-dessus. Donc, on fait des efforts. Ce que moi je demande à mes services, c'est réfléchissons, imaginons, inventons les moyens de produire du service public de qualité en dépensant moins d'argent pour produire. Que lorsque vous dépensez 1 euro pour une politique publique, que vous n'ayez pas dépensé 5 euros pour la mettre en œuvre.
D'accord. Et donc vous êtes vraiment dans une dynamique où vous demandez à vos services d'optimiser au maximum.
Oui, donc je demande à mes services d'optimiser au maximum parce que justement les ressources publiques étant rares, il faut qu'elles soient le mieux utilisées possible au profit de la population, au profit du peuple martiniquais et de la politique que vous mettez en œuvre, et non pas de la logistique nécessaire à cette politique. Et puis je demande aussi à mes services de changer un peu de culture. Nous sommes en train de changer de culture et on a la culture de la dépense. Mais il faut qu'on ait aussi la culture de la recette, à la fois pour suivre l'évolution, l'état des dépenses et donc faire entrer les subventions qui ont été attribuées. C'est une des difficultés qu'on a dans les collectivités et dans la puissance publique en général, mais aussi trouver et inventer de nouvelles sources de recettes.
Oui, mais nous y reviendrons, monsieur le maire. Ce que je voudrais, c'est qu'on revienne aussi sur la question du socle électoral. J'y reviens. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, c'est un argument qui est pris, vous le savez. Et comme je vous ai dit, nous sommes d'accord sur ça, quelles que soient les rencontres que nous allons les faire sans complaisance. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer, il faut parfois crever des abcès. Et le principe, c'est qu'on dit que finalement, il y a beaucoup de monde à la mairie de Fort-de-France. Parce que s'il y a 2000 personnes, que 2000 personnes multipliées par 3 personnes dans une famille, ça fait 6000 votes. Que plus ceci, plus cela, avez entendu ça quand même.
Oui, j'entends ça, mais moi j'invite les gens.
Et c'est pas complètement, enfin je veux dire, est-ce que c'est complètement faux?
Est-ce que c'est complètement faux? Oui et non. Ça...
Parce que quand vous, je dis pas que vous achetez les consciences, mais enfin, je veux dire, quand vous avez une armée de petits jeunes qui refont des trottoirs sur des routes, sur des choses comme ça, ils sont quand même reconnaissants que M. Limet, nous fasse là, quoi. Enfin bon...
Ils sont reconnaissants comme M. Limekaba nous fasse là. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est pour ça M. Limekaba nous fasse là ou est-ce que M. Limekaba nous fasse là pour Bayou fasse là? Et c'est ça qui fait peut-être la différence. Et c'est pour ça que je ne comprends pas, enfin que j'ai du mal avec cette histoire de socle électoral. Quand je rencontre un jeune ou un moins jeune, quand je rencontre quelqu'un qui est en difficulté, qui m'interpelle parce qu'il a besoin de travailler, parce qu'il a besoin d'un accompagnement, parce que sa maison coule et que ses enfants ne peuvent pas travailler le soir, ils ne peuvent pas travailler quand il pleut parce qu'il y a de l'eau partout, etc., etc. Moi, ce à quoi je pense, c'est comment je vais aider cette personne-là. Et non pas, est-ce qu'elle va voter pour moi après ? Les gens voteront pour vous si vous faites le bien, pas si vous les achetez. Il y a toujours quelqu'un qui va acheter plus cher que vous. On nous a vendu. Donc moi, je n'arrive pas à me placer dans la situation de celui qui achèterait des gens. Non. Donc il y a des gens qui travaillent à la mairie de Fort-de-France. Oui, quand vous avez 3000 salariés, si les 3000 salariés sont inscrits sur vos listes électorales, oui, ça fait un, oui. Mais bon, quand vous regardez l'évolution des choses, vous n'avez qu'à regarder les mouvements migratoires martiniquais, vous vous rendez compte qu'une grande partie du personnel municipal quitte la ville et va parce qu'il habite en commune maintenant. Et parce que il y a eu jusqu'à 4000 personnes qui ont travaillé à la mairie de Fort-de-France. Mais vous pensez vraiment que les gens ont voté pour Aimé Césaire de 1945 à 1995 parce qu'il leur donnait du travail ou parce que ils lui ont été reconnaissants parce qu'il a donné du travail et donc il achetait des gens ou parce qu'il leur a permis d'avoir l'eau, l'électricité, de tourner, de mettre un toit, de s'installer sur un petit bout de terrain pour donner un toit à leurs enfants pour pouvoir parce qu'il leur a permis d'avoir l'école, parce qu'il a permis aux enfants d'avoir du lait dans les cantines l'après-midi et que pour certains le seul repas équilibré c'était dans les cantines. C'est parce que il y a eu ce travail. Là, oui. c'est ce travail-là qui gère.
Oui, mais Didier Laguerre. Attendez.
Maintenant, en ce qui me concerne aujourd'hui.
Didier Laguerre, on est tout à fait d'accord. Je veux dire, la politique de Césaire, vous la connaissez, moi aussi. D'accord. Je veux dire, nous sommes de la ville, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique de cette ville à l'époque de Césaire, aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire, vous, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, d'accord, qui vous retrouvez avec des budgets qu'il faut revoir, des éléments qu'il faut contraindre, avec une situation dont vous héritez. D'accord.
Bon, alors, et que j'assume. Une situation de la ville, une situation financière, une situation générale de la ville dont j'hérite et que j'assume. Et oui, la ville de Fort-de-France a des difficultés. Vous connaissez la politique et l'histoire de la ville de Fort-de-France. Vous savez que Fort-de-France dispose d'un des deux seuls réseaux d'égouts sous vide qui fonctionnent dans le monde. Celui du centre-ville et celui d'une ville en Italie. La Pointe-Simon, la station d'épuration de la Pointe-Simon. Avec le système d'aspiration. Oui. Vous savez que quand Aimé Césaire est élu, premier mandat d'Aimé Césaire, qu'il arrive, le secrétaire général de mairie lui dit, monsieur le maire, il va falloir renoncer à ce système d'épuration, ce système d'égout, parce que la ville n'a pas d'argent. Je lui ai dit, hors de question, je ne vais pas commencer par un renoncement. Et il a fait faire sa station d'épuration, son système d'égout, ça a pris un peu de temps et tout. Tout ça pour dire que la ville de Fort-de-France n'a jamais eu d'argent. Les besoins de la ville, les besoins de la collectivité, les besoins du territoire, faut y aller, sont sans commune mesure avec les moyens. Fort-de-France, c'est 250 km de route. Le conseil régional en avait moins. Le conseil général avait à peu près la même chose. Donc la région, la 7e aujourd'hui, a plus de kilomètres de route que la ville de Fort-de-France. Mais la ville de Fort-de-France, c'était la ville, le territoire, oui, la collectivité qui avait le plus long métrage de route à entretenir.
À construire presque à l'époque.
À faire de l'enrouber, et qui ont été construites à l'époque. Oui. Moi, j'assume le fait d'avoir à les entretenir, j'assume qu'on ait des difficultés, et je relève les défis de mon époque en conservant l'essentiel, d'accord, c'est-à-dire la politique progressiste et humaniste. Donc, oui, il y a 2000, je vous donne un donnée. J'ai été élu maire de Fort-de-France, 31 décembre 2014, nous étions à 2963 agents. Aujourd'hui, nous sommes à 692 agents. Voilà. J'assume un plan de départ anticipé à la retraite que je poursuis, que j'ai réaménagé, le départ d'un certain nombre d'agents, la réorganisation des services, la réorganisation des... Par exemple, nous payons 1 million d'euros pour nettoyer les différents sites de la ville. Entretien, vider la poubelle, nettoyer les bureaux. Alors que nous avons du personnel qui est en capacité de le faire, donc j'assume le fait de réorganiser tout ça, de construire une entreprise municipale. L'objectif étant, et c'est là que c'est électoraliste, ça peut être considéré comme électoraliste, l'objectif étant non pas d'avoir des gens qui soient mes débiteurs, et c'est parce que je leur ai donné du travail qu'il faut qu'ils votent pour moi, l'objectif étant de répondre aux besoins de la population. Donc de prendre ce million d'euros et de le mettre sur des écoles. D'accord. De le mettre sur de la culture, de le mettre sur du sport, je sais que vous êtes très attaché au sport, de le mettre sur l'entretien des voiries, des caniveaux, etc. Et donc, de continuer à développer cette ville, de le mettre sur l'attractivité du centre-ville. Ce matin, on signe une convention avec le groupement des artisans d'art, avec la chambre des métiers, sur l'installation des artisans d'art dans la ville de Fort-de-France, créer des rues à thème, etc. Et permettre, ça demande des moyens. Je préfère mettre cet argent-là, là. Parce que là, je permets à mes artisans de mon pays de montrer ce qu'ils savent faire.
Vous voulez bien me donner la parole pour poser la question.
Merci, monsieur le maire. L'objectif étant, c'est pas parce qu'on parle de corps électoral et de l'objectif c'est pas de se dire ils seront mes obligés. Je les tiens parce qu'ils travaillent pour moi. Les gens ne fonctionnent plus comme ça.
J'ai compris, et quand je vous écoute, quand je vous vois me parler, je suis persuadé effectivement que vous n'êtes peut-être pas de cette nature à considérer que, même si encore que, puisque vous avez une deuxième nature qui est votre nature cachée, qui est votre nature politique, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes obligé d'être alerte sur un certain nombre de sujets qui font que...
Vous êtes vigilant,
oui. Oui, il y a une logique. Mais Allons pas passer tout le temps
mais
sur
le
ça.
Mais le politique n'est pas forcément. Mais le politique mais n'est, la politique, c'est quelque chose de noble. C'est pas un tordu.
C'est moi qui ai lancé la chaîne.
Je suis un politique. Oui, je suis un politique.
C'est moi qui ai lancé le sujet.
Mais je prétends que je ne suis pas un tordu. Hein. Oui. C'est noble, la politique. Je vais vous raconter une histoire. Je me déplace. Pas beaucoup voyagé. Commence à aller en France. Encore moins en période d'hiver. Mais bon, je me déplace. Dernière fois que j'étais à Paris. Semaine dernière, je suis parti à Paris, je suis parti le dimanche, le mercredi j'ai repris mon avion. Cette semaine je pars dimanche, j'ai une réunion mardi, comité des finances locales, mardi après-midi je reprends l'avion. Là, je prends le taxi et le taxi, il parle beaucoup le monsieur d'ailleurs. Et il me demande, mais vous qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis maire d'une ville dans mon pays. Il me dit, ah bon c'est pas possible, et pourquoi vous faites ça? Je dis, pour aider les gens. Pour aider les gens. Je suis là pour aider les gens. Je ne suis pas là pour... Donc, après, je suis élu, je ne suis pas élu. Ça fait partie de la vie politique. Mais le politique, c'est noble, la politique. Et il m'a dit, ce que vous me dites là, c'est grand. Vous faites ça pour aider les gens. Ouais, c'est bien, c'est noble. La politique, c'est noble. C'est pas... On présente trop l'action politique, l'homme politique, l'implication politique comme quelque chose de sale. Alors oui, mais il y en a partout. Vous avez des gens qui sont tordus dans tous les corps de métier. Vous avez des journalistes tordus. Vous avez des journalistes véreux. Des journalistes qui se font payer pour en faire des interviews. Vous avez de tout. Vous avez des caissières de supermarchés. Vous avez des gens tordus. En fait, c'est la nature humaine. C'est pas votre activité. C'est la nature humaine qui fait que vous avez des gens tordus de partout. Dans tout, que vous en trouvez partout.
Oui, mais les hommes restent des hommes.
Y compris chez les élèves.
C'est ça.
Les femmes aussi. Les femmes aussi sont tordues. Oui. Vous avez des gens tordus dans tout. Donc, c'est vrai. On focalise sur la chose politique. Et c'est vrai que je suis aussi très objectif. Hein. C'est vrai que c'est ainsi en Martinique qu'on peut se poser des questions par rapport à certains. Par rapport à notre actualité, à dire les choses comme elles sont, par rapport au TCSB, dont on a bien quelques difficultés à le faire fonctionner. On peut se dire que le politique n'est que sur ça. Oui. Mais en réalité, 98% du temps du politique, il le passe à voir comment il va développer, comment il va régler des problèmes, comment il va apporter des réponses. Sinon, il n'est pas politique et il ne dure pas. Ne reste pas. Les gens se rendent bien compte que vous n'êtes pas sur eux au final. Donc, ils ne sont pas sur vous non plus. Hein. Et aujourd'hui, plus qu'hier, ce qu'ils ont là, journal, télé, internet, tous les moyens d'information.
D'accord. Alors, Didier Laguerre, je retiens quand même de ce que vous dites, et c'est passionnant. Hein. Je retiens tout de même. C'est pour ça que cette interview est passionnante. Je retiens tout de même que vous dites, voilà, Césaire, il a fait ça. Moi, aujourd'hui, je dois m'occuper d'un certain nombre de choses. J'hérite d'un certain nombre d'opérations. Est-ce que ça veut dire que vous êtes dans une démarche de service après-vente? J'explique pourquoi.
Non, je suis dans une démarche
pourquoi,
mais
laissez-moi m'expliquer. J'explique pourquoi. Vous héritez en même temps, vous avez dit, d'une des villes les plus pauvres. C'est-à-dire que de France, ça veut dire que Fort-de-France se paupérise aussi, comme toute la Martinique, sur bien des points. Mmh. Et on se rend compte que les gens demandent de plus en plus, qu'ils ont des attentes plus grandes. Ils veulent qu'il y ait plus de fêtes, ils veulent qu'il y ait plus de sport, ils veulent que Monsieur le Maire donne aussi un sac de ciment. Comment on arrive? Lorsqu'on est dans des budgets contraints, comment arrive-t-on à trouver la ligne directrice dans une ville où je prends le cas, par exemple, du centre-ville de Fort-de-France. À une époque, la bourgeoisie foyalaise habitait le centre de Fort-de-France. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus d'habitants au centre de Fort-de-France.
Enfin, il y en a moins. Bourgeois. Il y a ce que vous appelez la bourgeoisie foyalaise, la grande bourgeoisie qui habitait le centre-ville et certains contreforts. C'est ce que je vous dis, hein, parce que les choses ont évolué. Vous n'êtes plus dans la même situation qu'il y a 30, 40, 50 ans, voire même qu'il y a 10 ans. Donc les choses ont évolué, les gens ont évolué, nous évoluons, chacun. Nous évoluons. Et donc, il n'y a plus cette grande bourgeoisie. Comment vous faites? Je n'ai pas hérité de la ville, d'une ville qui s'appauvrit. Fort-de-France, je le répète, a toujours été une ville pauvre. Fort-de-France s'est construite sur des marécages. Je dis ça pour. Je dis pas ça pour dire ouais, machin, nanana. Je dis ça parce qu'il faut qu'on réalise bien d'où on vient. On ne vient pas d'une ville riche. On n'est pas un pays riche. on est un pays en voie de développement. La France a mis des siècles à faire ce qu'elle fait. Nous, on a 160 ans. Et on doit, en 160 ans, on doit fournir le même standard aujourd'hui à la population qui l'attend. Donc, je n'hérite pas d'une ville pauvre, j'hérite d'un joyau. Et quand je parle de Fort-de-France, elle me dit, oui, je peux vous tenir là des heures, je suis passionné par cette ville. J'hérite non pas d'une ville pauvre. C'est une ville pauvre, oui, c'est un pays pauvre, la Martinique est pauvre. La Martinique, c'est pas un pays riche, il faut qu'on comprenne ça. J'hérite d'un joyau d'architecture, j'hérite d'un joyau patrimonial, j'hérite d'un peuple, d'une population. Quand vous allez dans les quartiers de Fort-de-France, oui, vous voyez de la pauvreté. Oui, vous voyez des gens qui ne mangent pas forcément tous les jours à leur faim, mais vous voyez des gens qui ont une qualité humaine, vous voyez des gens que vous avez envie d'aider. Vous voyez des personnes âgées qui se sont battues toute leur vie, qui ont porté des sacs de ciment sur leur dos pour construire leur maison dans les hauteurs de Fort-de-France à Trinel. Et quand vous rencontrez ces gens-là, vous avez un trésor, vous avez une richesse. Vous devez les accompagner, vous devez justement porter, faire votre part et porter votre contribution au développement de la ville et du
d'accord.
pays.
Césaire avait eu comme ligne directrice la culture. C'est quoi votre ligne directrice aujourd'hui en ce qui vous concerne?
L'humain.
Ça veut dire quoi, monsieur?
L'humain, dans tout, le développement humain dans toutes ses dimensions.
Alors, expliquez-nous ça.
Ça veut dire qu'il vous faut à la fois permettre le développement culturel, la conscientisation. Il vous faut également permettre l'éducation, c'est fondamental.
Alors, comment ça s'exprime aujourd'hui dans votre programme?
Ça s'exprime aujourd'hui sur la culture, par le maintien d'une politique culturelle forte qui allie à la fois l'expression martiniquaise, la place à l'expression martiniquaise et à la transmission de
d'accord.
cette expression martiniquaise.
On est d'accord.
En même temps, le brassage culturel
restons sur le cadre de la culture.
Ouais.
Je veux dire, les choses ont, c'est vrai, évolué, mais fondamentalement dans la culture, qu'est-ce qui aura changé à Fort-de-France?
Comment ça, fondamentalement dans la culture, dans ce qui aura changé? Mais je ne suis pas là pour changer forcément les choses. Je suis là pour développer. Je ne suis pas là pour changer. Je ne suis pas là pour dire, bon, ben maintenant, c'est DJI qui est meilleur, donc, Mrs. est bien gentil, mais moi, je vais faire la culture autrement. Non. Ce qui va changer, ce qui va évoluer, c'est que je vais m'adapter. Je vais garder, justement, cette ligne directrice forte d'une politique culturelle qui permette aux Martiniquais, d'où qu'ils viennent, de mieux se connaître, de mieux s'accepter, de mieux affronter l'autre. Et de mieux accepter l'autre, de mieux se projeter dans le monde. Et pour ça, ben, je vais continuer à faire des ateliers culturels, je vais continuer, mais je ne vais pas forcément faire les mêmes ateliers culturels. Je vais continuer, mais simplement, aujourd'hui, la culture, elle reste la même, mais en même temps, elle évolue. Nous nous enrichissons, nous avons des apports. Je vais donc organiser des manifestations différentes. Je vais m'adresser à vous et moi, les jeunes de plus de 50 ans, mais je vais aussi m'adresser aux jeunes de moins de 20 ans. Et je vais faire en sorte que tout ce monde trouve sa place. Et que toutes les formes d'expression...
La ligne de prix bas, pour la formation, par exemple.
Oui, que toutes les formes d'expression culturelle trouvent leur place. Je vais faire des ateliers. Mais par exemple, aujourd'hui, je vais faire un atelier de filage de verre. Donc, je vais à la fois garder les fondamentaux. Il faut garder les fondamentaux. Mais en même temps, il faut évoluer et s'adapter. Je vais utiliser des nouvelles technologies. Je vais, par exemple, avoir des ateliers aujourd'hui qui ne sont pas de l'initiative du maire Didier Laguerre, qui est de mes prédécesseurs. Vous allez trouver aujourd'hui des ateliers de peinture sur ordinateur.
D'accord. Et sur l'éducation, comment ça se traduit, par exemple?
Sur l'éducation, je vais faire en sorte, non pas qu'il y ait... Parce que le besoin n'est plus le même. Quand Césaire décide de mettre l'accent sur l'éducation et qu'il met des écoles dans tous les quartiers, plusieurs écoles dans les quartiers, la problématique était comment amener l'éducation au plus près de l'enfant. Aujourd'hui, la problématique n'est pas comment amener l'éducation au plus près de l'enfant. Vous avez des gens qui font 30 km, 40 km pour venir déposer leurs enfants dans les écoles de Fort-de-France. Donc la problématique n'est plus la même. La problématique, c'est comment faire en sorte que l'enfant ait une éducation de qualité. Comment faire en sorte que cette éducation lui permette d'être un homme responsable, une femme responsable, c'est-à-dire d'avoir un esprit critique. Comment lui permettre d'avoir un esprit critique vis-à-vis d'Internet, de ce qu'il va trouver sur Internet. parce qu'il est doté aujourd'hui de tablettes, de smartphones, etc. Il va sur Internet, il voit des conneries sur Internet. Comment faire en sorte qu'il se rende compte que ce qu'il voit là, c'est une connerie?
Et sur le numérique,
par exemple. Je vais mettre du numérique à la disposition des enseignants. Je vais travailler avec les enseignants pour mettre tablettes, ordinateurs, etc.
Développer. J'ai vu que vous avez aussi refait le site de la ville.
Hein, développer le. Oui, parce que je suis un petit peu aussi maniaque des nouvelles technologies. Je vais donc. Dans le domaine de l'éducation, renforcer. Je vais faire en sorte qu'avant, en matière d'éducation, l'éducation, ce n'est pas que l'école. L'éducation, c'est l'ensemble. Avant, quand vous faisiez des conneries à la maison, la voisine vous corrigeait. Hein, et ça ne vous posait aucun problème. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Donc, le groupe est peut-être moins présent. Donc, je vais passer des partenariats. On a signé une convention hier avec la CAF, avec l'éducation nationale, avec le procureur de la République, qu'on s'est des droits et devoirs des familles. C'est pas simplement pour être dans de la répression, mais c'est pour aussi être dans de la prévention, de la formation, de l'éducation. Je vais donc rassembler des partenaires pour avoir une action en matière éducative, pas simplement de transmission de savoir pédagogique, mais d'éducation, c'est-à-dire de formation de l'enfant qui est l'adulte de demain. Pour justement permettre que cette société puisse se développer, que cet enfant puisse se projeter. Donc tout ça, les champs peuvent rester les mêmes, mais les modalités vont changer parce que je vais aujourd'hui, vous dites qu'est-ce que le maire de Fort-de-France va... Ben, aujourd'hui, je veux que Fort-de-France soit le leader, le pilote en matière d'économie numérique en Martinique, mais dans la Caraïbe. Je vais faire de Fort-de-France une smart city. Tout, j'ai changé le site internet qui me semblait
très 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 beau. En tout cas,
qui me semblait,
vraiment.
Qui me semblait pas très fonctionnel. Vous alliez sur le site chercher une information, bon, très rapidement, vous laissez ça tomber.
Non, c'est vrai que j'ai été. Ça fait combien de temps que vous l'avez changé? Parce que là, j'ai découvert ça, je crois qu'il y a à peu près.
Un an.
Un an?
Ouais, ça fait à peu près un an. Voilà.
Je trouve vraiment.
On a voulu faire l'inauguration.
Je trouve vraiment que le site de la
période électorale, c'est un an. Ça fait un an. Oui, il faut changer le site. On est passé à la dématérialisation du courrier. Ce qui pose d'ailleurs quelques petites difficultés parce qu'il vous faut à la fois vous adapter et en même temps adapter le logiciel. Mais on est passé à la dématérialisation. On a un portail pour les familles qui leur permettent d'être en relation avec la ville en matière d'éducation. Je veux dématérialiser. Je veux que demain matin, enfin, après-demain, non, demain matin. Je veux que, quand vous descendez à Fort-de-France, ben, sur votre smartphone, vous avez une application qui vous permet de savoir non seulement ce qu'il y a comme produit dans la ville, mais également où il y a une place de stationnement disponible. Et que vous alliez directement là où la place de stationnement est disponible. Que vous puissiez payer votre stationnement au mois depuis votre smartphone chez vous. Que vous puissiez offrir un mois de stationnement à qui vous voulez.
Vous voulez
depuis Paris parce que vous êtes en déplacement à Paris. Je veux que la ville soit leader en matière de produits numériques. Mais pas seulement. Je veux que l'économie du numérique, on est des consommateurs pour l'instant de contenu. On peut être des producteurs de contenu.
Absolument.
Donc, je veux que cette économie se développe sur le territoire de la Martinique et singulièrement
et vous envisagez
à Fort-de-France.
Quoi, vous
envisagez. Pour ça, il faut créer les conditions. Vous avez un village du Crédit Agricole qui est en train de s'installer sur la rue de la Liberté. Vous avez des initiatives privées qu'il faut accompagner. Le rôle de la puissance publique n'est pas de faire. Le rôle de la puissance publique est de créer les conditions pour que ça se fasse et d'accompagner la dynamique. Je mets par exemple des locaux à disposition sur Sainte-Thérèse. Je crée ce qu'on appelle une maison du numérique. Je mets des locaux à disposition d'associations et d'une entreprise.
L'équipement aussi ou
pour non, pas forcément l'équipement. Je mets les locaux. Je me suis battu et je travaille avec Orange pour faire le passage au très haut débit de la ville de Fort-de-France. Donc je mets les locaux. On travaille à créer une synergie. La ville n'est pas obligé de tout mettre. Je mets les locaux, on travaille à trouver des partenaires qui vont financer des équipements, etc., pour créer les conditions pour que des start-up dans le domaine du numérique. Tout ce que je vous disais là, je veux que la ville fasse ci, qu'elle fasse ça, que vous puissiez. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que j'aille l'acheter à des gens qui sont à Paris, à New York ou à Singapour,
alors que les des jeunes Martiniquais qui ont la technologie, qui ont le savoir-faire
et qui souvent vont travailler dans ces entreprises à qui je vais acheter le produit.
Absolument. Alors, écoutez, Monsieur Laguerre, ça fait déjà Monsieur Didier Laguerre, nous avons déjà 43 minutes. Je vois que finalement, c'est vrai. Je témoigne du fait que vous êtes passionné par ce que vous faites. Ça explique aussi le fait que nous ayons pris la décision de nous rencontrer régulièrement tous les mois, puisque les auditeurs se rendent bien compte qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on ne peut pas. Alors, par contre, on s'était promis de faire un petit volet sur le sport aujourd'hui. Mm-hmm. Je ne voudrais pas qu'on
évite sans faire le sport.
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je fais partie de ceux qui considèrent que le sport est très important, que dans l'identité d'une ville, ça contribue énormément. Alors, on vous écoute religieusement pour savoir c'est quoi votre dynamique, c'est quoi votre vision, parce que si Fort-de-France a eu de grandes équipes, il se trouve aujourd'hui que Fort-de-France se fait tailler les coupiers, on va dire, par des petites communes qui sont spécialisées.
Vous pensez au football, mais il n'y a pas si longtemps que ça, le championnat Martinique était Fouillalais, le club colonial, entre autres. Donc oui et non, mais c'est vrai que les trajectoires du sport d'élite. Dans le sport, il y a le sport d'élite. Là, on pense au football ou autre. Il y a le sport d'élite et puis il y a le sport de masse qui s'adresse à l'ensemble. Quelle est la politique sportive de la ville? À la fois accompagner le sport d'élite, accompagner nos clubs de foot. Il y en a une dizaine sur le territoire de la ville. C'est beaucoup plus compliqué d'accompagner une dizaine
de clubs
vers l'élite.
Alors quand c'est qu'on fait le championnat de Fort-de-France alors?
Le championnat de Fort-de-France, pas forcément, mais on peut imaginer un tournoi entre les équipes de Fort-de-France. Ça peut Ça peut se discuter avec les présidents des clubs avec qui nous avons une excellente collaboration en matière de football. Mais il ne s'agit pas, il n'y a pas que le football. Il y a aussi la pétanque, il y a toutes les disciplines sportives. Et donc notre politique, c'est de dire accompagnons l'élite, accompagnons nos sportifs d'élite en club ou même individuellement, champion du monde, je pense à Canel Légy par exemple, avec qui on a un partenariat et que nous soutenons et que nous accompagnons dans sa démarche. Je souhaite qu'elle continue, je lui ai déjà dit ça, et qu'elle aille au prochain championnat d'Europe, de France, d'Europe et du monde, qu'elle aille chercher toutes les médailles. Nous avons besoin d'icônes, nous avons besoin de. Mais je souhaite aussi qu'on développe et qu'on retrouve nos lustres d'antan en matière d'athlétisme. Nous avons, on va pas me faire croire qu'on a perdu nos qualités intrinsèques d'athlète, de coureur, de sauteur, etc. Mais il faut aussi développer un autre aspect dans la
politique.
Depuis quand
vous êtes allé sur le parcours du stade de Dillon?
Ah non, je ne vais jamais sur le parcours du stade de Dillon. C'est à l'opposé de mes habitudes de déplacement.
Vous devriez y aller.
Mais je sais où vous venez. Mais il y a aussi un sport à destination de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc nous sortons aussi le sport des stades et des enceintes prévues, d'où le parcours de Dillon, d'où le parcours du côté du tunnel Didier, d'où un projet que nous sommes en train de travailler d'un parcours au niveau de la forêt Montgéral, que la ville a acheté, que nous allons aménager, et donc une politique sportive du plus grand nombre, parce que le sport doit aussi être allié à la santé. Parce qu'on a de vraies problématiques de santé à la Martinique, je ne vous cache rien. Certaines sont liées aux produits toxiques et pesticides que nous ingérons à l'insu de notre plein gré régulièrement. Et bon, bref, on ne va pas partir sur ça parce qu'on n'est pas parti. Mais il y a vraiment à dire à ce niveau-là. Il y a vraiment des choses qui sont inacceptables qui se sont produites et qui méritent non seulement réparation, mais que chacun tire les leçons et que les responsables et les coupables soient sanctionnés à la hauteur du crime, comme dirait l'autre.
Vous parlez de crime, hein?
Oui, c'est un crime de faire ça. C'est un crime de polluer volontairement. sciemment, en toute connaissance de cause, des territoires, des terres, de mettre en danger, sur du long terme, la vie d'êtres humains, pour du profit, pour de l'argent. Pour
nous donner un nom
pour, non, j'ai pas de nom à donner. Il y a des gens qui sont responsables. Et mon rôle n'est pas de dire. C'est X, Y, Z. Il y a des gens qui sont payés pour ça d'ailleurs, hein, de savoir qui est responsable de quoi. Mm. Et dans ce genre d'affaires-là, ça prend énormément de temps. Moi, je suis sur le fond. Il y a des gens qui ont donné des autorisations. Il y a des gens qui ont fait en connaissance de cause. Et qui l'ont fait. Avec un objectif de profit. Un profit qui, de toutes les façons, comme on dit dans notre culture, hein, yo ka tiro sans l'argent. Donc, c'est là que pour moi le crime est. C'est pas qu'il y ait de la pollution. Vous polluez, vous utilisez aujourd'hui ce que vous utilisez. À l'époque, vous mettiez votre déodorant en spray, là, sous vos bras, et en faisant ça, vous polluez. Mais vous ne savez pas que vous polluez. Celui qui le fabrique ne sait pas. Mais une fois que ça se sait, à partir de là, on prend les dispositions, on arrête. Vous polluez avec vos pesticides, etc. Vous savez que vous polluez, vous savez que les produits, vous arrêtez de les produire, vous arrêtez de les vendre, vous arrêtez de les acheter, et vous arrêtez de traiter des aliments avec. Donc c'est pour ça que je parle de crime, oui. Maintenant, qui sont les responsables et qui doit-on...
Oui, il y a tout un système
qui,
aussi.
Qui doit assumer les responsabilités, ben on doit, parce que c'est tout un système, c'est pas une personne. C'est un système qui est criminel. Au-delà d'une personne, c'est un système qui est criminel. C'est un système de maximisation du profit au détriment de l'être humain. Et ça nous concerne, nous Martiniquais, on a aussi le quartier du sport, ça nous concerne, nous Martiniquais, bon voilà, ça je vais manifester une forme de colère, mais ça se fait au Costa Rica, hein. Ça se fait en Argentine, ça se fait dans plein de pays. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est du profit. Et ce profit, cet argent, ne sert même pas à améliorer la vie de l'être humain. Cet argent sert à enrichir des gens qui sont déjà riches. Bon, voilà.
Alors, Didier Laguerre, je vais vous proposer.
Donc, je reviens sur le sport, mais il faut qu'on se voit vraiment sur le sport,
oui.
Peut-être sur
le plus longuement. Oui, qu'on fasse une édition spéciale.
Une rencontre sur le sport. Il y a aussi ce sport de prévention, ce sport santé, ce sport de masse, ce sport événementiel également. On a organisé le championnat de France de semi-marathon. Il n'y avait pas de place dans les hôtels en Martinique pour accueillir les athlètes et leur délégation. On a envahi la pointe du Bourg, aux Trois-Îles, on a rempli tous les hôtels. Et donc, c'est aussi un élément, un facteur économique. Lorsqu'on met 5000 personnes qui courent pour des. Ils font du sport, mais en même temps, ils s'amusent, ils créent une dynamique, une animation, les color run, les bubble run, etc. Donc, ce sont tout. Et la ville se doit de rester pionnier, leader, parce qu'elle a davantage de moyens que certains de mes collègues. C'est une réalité aussi.
Vous avez quoi à peu près? Vous avez une idée de ce que ça représente, le budget du sport dans Fort-de-France?
Hors
infrastructure,
hein? Hors infrastructure, on est quand même à 4 ou 5 millions d'euros en termes de...
Oui, 4 ou 5 millions
d'euros, non, en termes de logistique, de salariés, de politique, oui, en interne. Vous avez aussi les subventions. On est à autour de 500 000 euros de subventions qui sont distribuées
aux associations
diverses et variées, aux associations. Mais vous avez des associations sportives qui organisent des événements socioculturels. Vous avez des associations qui sont pas des clubs, oui. Et qui vont organiser des manifestations sportives.
Est-ce que c'est pas de là justement que l'innovation peut aussi venir pour Fort-de-France avec toutes ces associations, au sens où on se rend compte que bon, les infrastructures, on est obligé de les entretenir, tout ça, il n'y a pas de problème, mais que on se rend compte aussi que chaque fois qu'il y a une grosse manifestation à Fort-de-France, tout le monde est bien content, ça fait marcher le commerce, ça fait marcher... Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer qu'à la fois avec la culture et le sport, on puisse retrouver une nouvelle identité pour Fort-de-France, puisqu'on a bien vu que sur la partie économique, les gros groupes se retrouvent, disons, hors de la ville, alors qu'il y a vraiment une ville à animer, quoi.
Oui, Mais vous savez, il y a vraiment beaucoup, hein, beaucoup de manifestations sportives et culturelles sur Fort-de-France. Et on est en train de finaliser le calendrier de l'année 2018. Et quand vous regardez le calendrier, vous vous rendez compte que presque chaque mois, il y a quelque chose à Fort-de-France. C'est quand même, à ce niveau-là, on est quand même particulièrement dynamique. Maintenant, l'économie, elle n'est pas que dans les grands groupes, les centres commerciaux et la consommation, je veux dire, telle qu'on la pratique. Hein. L'économie, elle est aussi dans l'artisanat d'art, elle est aussi dans la culture, elle est aussi dans la proximité. Elle est aussi dans le service à la personne. Et dans, quand je dis le service à la personne, c'est la petite boutique qui est dans le quartier qui fait que vous n'avez pas, mamie n'a pas 5 km à faire, un bus à prendre, un taxi à prendre pour pouvoir aller faire ses courses. Et avec des tarifs qui sont corrects. Ouais. Donc c'est aussi cette dynamique-là. C'est l'épicerie que vous allez trouver dans, et qui revient dans.
Oui, il y a beaucoup d'Haïtiens en ce moment d'ailleurs.
Non, pas que d'Haïtiens.
Mais en tout cas, j'ai observé qu'il y avait une bonne filiale haïtienne.
J'ai visité mardi, j'ai visité une papeterie ouverte par une jeune qui a décidé de créer son activité, qui a été accompagnée, aidée dans le cadre de la politique de la ville, par la DI entre autres, qui a ouvert son activité au Théâtre Saint-Ville. Qui a ouvert donc sa papeterie et qui vend.
Par contre, monsieur le maire, Théâtre Saint-Ville est vachement dynamique.
Terre Saint-Ville est dynamique, le centre-ville aussi est dynamique. Le centre Terre Saint-Ville, vous savez, paradoxalement, Terre Saint-Ville, on se cantonne à un petit périmètre. Le centre-ville est quand même un peu plus grand, mais le centre-ville est particulièrement dynamique. Vous avez beaucoup de d'activités qui se créent, vous en avez qui disparaissent aussi. Vous avez des activités qui se créent. En fait, nous sommes dans pleine période de mutation et de transition. Et c'est aussi à nous de définir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons trois grands centres commerciaux, que le centre-ville soit à l'image d'un grand centre commercial avec des boutiques qui vendent à peu près toute la même chose, ou est-ce que nous voulons justement que ce centre-ville porte toute la richesse de ce que nous sommes, des Martiniquais, avec notre culture, avec notre art, notre artisanat, nos boutiques, et nos activités, nos places et nos lieux de rencontre.
Très bien. Alors écoutez, là, ça va nous faire une heure, on va terminer. On va vous laisser le dernier mot. On vous remercie une fois de plus de nous avoir reçus. On se donne rendez-vous le mois prochain et pour l'instant, on vous laisse terminer. Merci en tout cas de nous avoir reçus pour tous nos auditeurs et d'avoir consacré ce temps parce que vous nous avez accordé une heure finalement pour pouvoir parler de cette ville à laquelle nous sommes tous attachés, vous comme nous également.
Et merci de me donner la parole et je vous donne le rendez-vous le mois prochain. On pourra parler de politique sportive, on pourra parler de développement économique, on pourra parler de rénovation urbaine, on pourra parler de bonheur, on pourra parler de choses. Il se passe toujours des choses à Fort-de-France.
D'accord. Merci, monsieur le maire.
Merci et bonne journée, bonne fin de journée. Et puis j'invite auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices à venir à Fort-de-France. Et à consommer local. C'est fondamental pour le développement de notre pays.
Oui, merci.